Voilà, donc jusqu'il y a 2 ans, mon temps de parole classique était de 45 minutes. Alors j'ai dû faire une petite opération arithmétique, une division par deux. Voilà, donc ce ne sera pas un message de 45 minutes. Donc, ouais. Dans cette série, on m'a confié, donc la série Les facettes de Dieu m'a confié le thème Dieu le consolateur. Donc, j'ai envisagé deux pistes. Le consolateur, qui est un des noms que la Bible donne au Saint-Esprit, c'était la première piste. Et la deuxième piste, c'était consoler au sens courant du terme. Alors, ben, en me rendant chez le médecin pour un bilan de santé annuel, c'était, bon, ça devait être au mois de février, eh ben, j'ai vu cette image devant mon vélo, puis j'ai dit, ah ben, ça veut dire que je dois choisir le deuxième thème. Et puis ensuite, ben, il y a eu une réunion du groupe, et puis ça a été confirmé qu'il fallait que je m'oriente plutôt vers ce deuxième thème. Et puis ce matin, en ouvrant ma Bible avec les thèmes de la Ligue pour la lecture de la Bible, j'ai dit, ah bah tiens, aujourd'hui c'est Pentecôte. Ah bah tiens, la première piste, ce serait aller aussi pour aujourd'hui. Bon, ben bah, voilà. Voilà, ben, bah, on va se pencher sur ce texte principal qui est dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Alors, je vous le livre tout brut d'abord. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console de toute affliction, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Alors, avant de se lancer dans l'étude du texte, j'ai envie de poser une question préalable. Pourquoi avons-nous besoin d'être consolés? Bon, il se trouve que pour la plupart d'entre nous, si ce n'est pour tous, le vécu, bah, c'est déjà une réponse à cette question. Mais cette réflexion m'a amené à me remémorer un chant du groupe lyonnais Cascade, date des années 80, donc ça commence à dater, hein. Et ce chant m'avait inspiré une tentative de dessin en couleur, qui est restée pendant bien des années sans suite, la couleur chez moi. Et puis je l'avais utilisé déjà à cette époque-là, le crayon plutôt que les pinceaux. Prenons les textes de ce chant. Dieu n'a pas promis que des cieux bleus, que des chemins faciles et tout ce que l'on veut. Dieu n'a pas promis le ciel sur la terre, la joie sans peine et la paix sans guerre. Mais Dieu nous a promis un jour de repos, sa lumière sur le chemin, sa main sur nous. Dieu nous a promis son aide d'en haut, un amour infaillible qui dure toujours. Donc, ce chant a été utilisé dans une campagne d'annonce de l'Évangile sur les places autour d'Aubagne, là, un petit peu au nord de Marseille. Eh bien, ça m'avait frappé, ces paroles de ce chant. Puis bon, ben, en plus, il était assez prenant parce qu'il y avait des dissonances et puis des à-coups de rythme entre les filles et les garçons, on commençait pas les paroles ensemble, donc c'était assez prenant ce chant. Eh bien, ces paroles m'ont convaincu qu'il fallait bien éviter d'annoncer l'Évangile en promettant à nos interlocuteurs un Dieu qui résout tous les problèmes et qui nous fait que tout se passe nickel, sans souci. Ok, donc c'est un chant, écrit par des chrétiens, certes, mais est-il fondé bibliquement? Alors bon, comme je l'ai choisi, vous pouvez vous douter que, eh bien, la réponse est positive. Oui, c'est fondé bibliquement. Et je vous invite à vous pencher sur Jean 15, où Dieu, ou plutôt Jésus, nous avertit. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, eh bien ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Voilà cet avertissement de Jésus montre que le monde a manifesté de la haine pour Jésus, Jésus-Christ qui est le berger, qui est le roi, qui est le sauveur. C'est donc pas étonnant qu'il haïsse aussi ses serviteurs, ses disciples, vous et moi. Nous sommes bien avertis. Nous, tout autant que les disciples qui ont marché à côté de Jésus sur les chemins de Galilée et de Judée. Cet avertissement est encore vrai aujourd'hui, en 2022. Revenons à notre passage central, le texte du jour. Et dans cette étude que je vais mener, je vais rester assez proche du texte. Un peu style étude biblique, plutôt que de mettre en avant des versets qui soutiennent une thématique que j'aurais choisie d'avance. Ça fait longtemps que je n'avais pas préparé de message selon cette modalité, avec un sujet imposé, dirais-je. Donc c'était donc un beau défi pour moi de me lancer là-dedans. Revenons à Paul, qui a rédigé cette lettre. Eh bien, les destinataires de cette lettre lui étaient bien connus. Il avait vécu un certain temps à Corinthe, et puis d'ailleurs dans les salutations qu'on voit dans la lettre, il y a des noms, des femmes, des hommes. Eh bien, tous ces gens-là étaient dans le cœur de Paul quand il écrivait cette lettre, qu'il écrivait ses versets. Voilà donc pour placer le contexte. Puis ensuite, eh bien, il y a des anciens qui ont décidé de rassembler des textes pour former le Nouveau Testament. Eh bien, ils ont choisi cette lettre de Paul. Donc, s'ils ont choisi cette lettre, c'est qu'ils ont pensé que ce texte n'était pas réservé pour les habitants de Corinthe, qui vivaient au premier siècle de notre ère, mais que c'était valable pour nous aujourd'hui aussi. Prenons le verset 3. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Donc, ce premier verset de notre réflexion pose un peu le cadre. Qui est donc celui qui nous console? Eh bien, ce verset nous révèle que c'est un Dieu plein de bonté. Donc, ça pose les circonstances. Et je vous invite à garder ce passage, un Dieu plein de bonté, un Père riche en bonté, comme fil conducteur pendant toute notre réflexion. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Les expressions « en toute occasion », « dans toutes nos souffrances », signifie bien que c'est une consolation qui n'est pas destinée pour un avenir lointain, pour le après. Bon, pour le après, on y reviendra en conclusion. Donc c'est une consolation qui est prévue pour maintenant. Alors là, ben, je vais faire un petit peu une leçon de français. C'était pas mon métier, mais bon, je connais quand même un peu la langue. Et on constate que dans ces versets, eh bien, les verbes sont conjugués au présent. Ils ne sont pas au futur, ils ne sont pas au conditionnel. Donc, ça veut bien dire des notions d'actualité. Et puis, quand on reste aussi dans le texte, dans nos souffrances, ça nous rappelle aussi la diapositive que j'ai utilisée comme page de titre, eh bien, cela révèle que la consolation, qui est bien au présent, ne dépend pas des circonstances, mais qu'elle intervient dans leur présence, que ces circonstances soient des circonstances agréables ou non. Et puis, dans toutes nos afflictions, ben ça signifie bien toutes. Ça veut dire que ça peut concerner les soucis qui sont liés à notre identité en Christ, en gros, les persécutions menées par les ennemis de Dieu, qui sont aussi nos ennemis. Mais ça peut aussi simplement concerner des problèmes, des souffrances qui sont liées à notre statut d'être humain qui vit dans un monde qui est abîmé par le péché. Donc là, par rapport à cette notion de consolation, on est bien loin de ce qui a été pratiqué en particulier par l'Église, pendant un certain temps, qui consistait à promettre des consolations pour un monde futur, dans l'au-delà, et ça permettait de maintenir le bon peuple dans la souffrance, pendant que quelques rares profitaient des richesses du travail que produisait ce bon peuple. Donc, ce n'est pas du tout cette thématique-là qui est annoncée par la Bible. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Ce verset 5 nous montre que notre vie est en association avec Jésus-Christ, aussi bien dans les souffrances que dans la consolation. Or là, on peut tout à fait se rapporter au chapitre de Jean 15, où Jésus avertissait de la problématique. On pourrait dire maintenant, le maître, les disciples, même combat. Alors, je ne vais pas dire que nos souffrances vont contribuer à s'ajouter à l'action de Jésus pour le salut, ça c'est un peu une légende. Mais ce combat, eh bien ça nous concerne bien, on est impliqué. Au verset 6, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Nous venons parler de la communion qu'il y a entre nous et Jésus, mais il y a aussi une communion dans les souffrances avec les autres croyants, ceux qui nous ont précédés, comme Paul qui a écrit cette lettre, ou ceux qui vivent aujourd'hui en même temps que nous. Nos voisins, notre parenté, nos amis, nos frères et sœurs, que ce soit par ici, dans la communauté, ou que ce soit à l'autre bout du monde. Donc une notion de communion dans les souffrances qui concerne la dimension de l'Église. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et notre espérance à votre égard est ferme. Car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alors, en préparant ce message, je me suis dit que c'était une pédagogie de Dieu qui était un peu indigeste. Souffrance et consolation œuvrent ensemble pour notre croissance dans l'intimité avec Jésus. Ça œuvre ensemble pour la consolidation de notre foi. Alors, nous aurions préféré la consolation sans la souffrance. ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est le cas. Eh bien, non, ce n'est pas le programme de Dieu. Ça me renvoie d'ailleurs aussi au chant, aux paroles du chant de Cascade que j'ai lu tout à l'heure. Alors, il se trouve qu'avec Dany, puis aussi avec des amis, et puis d'autres gens qui sont dans différentes communautés, en particulier aussi un ami qui habite du côté de Apple, nous lisons le livre « Un moment avec Jésus ». Et dans ce livre, l'auteur paraphrase la Bible en la réécrivant comme si Jésus s'adressait directement à nous dans une conversation intime. Et puis en date du 10 mai de ce petit livre orange, comme on l'appelle, eh bien, la rédaction de ce message était déjà bien avancée. J'ai lu. Ne résiste pas aux difficultés de la vie et ne les fuis pas. Elles ne sont pas là par hasard. Ce sont des bénédictions taillées sur mesure par mes soins pour ta progression et pour ton bien. Accueille toutes les circonstances qui surviennent avec la conviction que je peux en tirer du positif. Accueille les problèmes comme autant d'occasions de t'appuyer plus fortement sur moi. Et puis ensuite, il y avait des versets qui étaient cités en référence. C'est celui-là. Alors c'était un clin d'œil qui m'est arrivé dans la préparation de ce message. Alors, j'affirme que je crois à ces paroles de Dieu. Mais j'avoue devant vous que j'ai des fois de la peine à les vivre quand les circonstances que je traverse sont désagréables. Alors, j'ai laissé ensuite de la place pendant bien des semaines pour un exemple concret que je pourrais tirer de mon expérience personnelle, dans mon actualité, pour illustrer cette consolation qui intervient au milieu de la souffrance. Eh bien, je n'en ai pas trouvé dans ma vie personnelle, mais dans ma lecture de la Bible. J'ai lu le livre de Job et j'ai constaté que cet homme avait été éprouvé de manière tellement violente. Puis il a eu la visite de trois de ses amis. Il aurait été bien inspiré de continuer à pleurer avec lui en se taisant, plutôt que de l'accuser et puis lui envoyer plein de verser un peu ta rébiscotée. Et là, en plein dans cette horreur, Job proclame « Je sais que mon rédempteur est vivant. » Alors, j'en conclus que pour pouvoir dire ça dans ses souffrances, il a dû recevoir une aide particulière de Dieu, il a dû recevoir la consolation à ce moment-là. Et puis, le 24 mai, donc il y a quelques jours, nous étions à la cérémonie funèbre pour l'oncle de Dany. Eh bien, il avait choisi aussi ce verset pour la méditation, pour sa cérémonie d'adieu. Donc là, encore un clin d'œil. Revenons à Job. Quelques jours après cette déclaration assez magnifique, quelques jours ou quelques semaines, la Bible ne précise pas le délai, eh bien Dieu lui parle et il vient le consoler avec des mots qui lui font du bien. Au moment où Dieu intervient, Job était encore en plein dans la souffrance et dans le désarroi. Il avait perdu toutes ses richesses, il avait perdu toute sa famille, il était dans une grave maladie. Ce n'est que plus tard que Job a retrouvé la santé, la prospérité et qu'il a reçu une nouvelle famille. Voilà, après ce temps de concentration sur ce passage du Nouveau Testament, on va essayer de prendre un peu du recul et puis regarder la Bible dans son intégralité. Et on découvre que Dieu est consolateur depuis toujours. C'est dans sa nature. Par exemple, on peut lire dans Ésaïe 25 « L'Éternel des armées fera pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, des vins vieux bien clarifiés. » Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. On se rend compte par là que, au moment où Paul était inspiré par Dieu pour écrire sa lettre, ce n'était pas à cause d'une surprise de Dieu qu'il avait besoin d'envoyer la consolation. Non, les enjeux de cette consolation sont beaucoup plus anciennes. Ésaïe, qu'on lit ici, eh bien, il rédigeait cela, c'était environ 800 ans plus tôt. Et on voit ici que dans ces versets, déjà à ce moment-là, le plan de Dieu se révélait pour toute l'humanité. On voit ces notions de tous les peuples, toutes les nations. Déjà là, il y avait cette vision qui allait au-delà du seul peuple d'Israël. Et puis, ben, on a lu tout à l'heure, par la bouche d'Estéphania, dans les chroniques, que Dieu se laisse trouver. Donc cette notion de consolation intervient bien avant. Et puis aussi, tout au début dans la Genèse, après l'aventure d'Adam et Ève et puis du fruit défendu, eh bien, il y a déjà un effet de consolation. Puis après le crime abominable de Caïn, ben, la consolation de Dieu intervient sur lui. Donc, dès le début, on voit cette notion du Dieu consolateur. Alors, si on a regardé ce qui se passe au début, ben on va regarder ce qui se passe à la fin aussi, sauf qu'il n'y aura pas de fin. On voit que cette consolation de Dieu a une portée éternelle. Nous le lisons dans Apocalypse 21. Ben voilà, ben c'était aussi ma lecture dans mon plan de lecture quotidien, ben c'était ma lecture de ce matin. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc là, c'est encore un clin d'œil à une autre facette de Dieu que nous avons étudiée. Ben là, c'était Olivier qui nous parlait du Dieu créateur. Ben là, il y a de nouveau Dieu créateur qui vient pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre avec d'autres paradigmes, des paradigmes qui ne sont plus placés dans le temps puisqu'on est dans une création qui va intervenir pour une vision d'éternité. Donc ce plan de Dieu de consolation reste valable pour l'éternité. Dans ce nouveau monde, les causes des larmes auront disparu, puisqu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Mais la consolation restera pleinement opérationnelle, ne serait-ce que pour nous guérir de nos souvenirs. En conclusion, Dieu est consolateur depuis toujours et pour toujours. Amen.